Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur VO Afrique. Vous êtes sur La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Antenne Libre, votre émission interactive sur ces sujets qui font ou qui défendent l'actualité. Quelques 18 000 scientifiques, praticiens, militants, juristes et bailleurs de fonds sont réunis depuis hier à Durban en Afrique du Sud pour la 21e conférence internationale sur le sida. Encore 2 millions et demi de nouvelles infections par an dans le monde. Que faut-il faire à votre avis pour lutter efficacement contre le VIH-Sida en Afrique? C'est la question de ce jour. Nous avons des gens, des invités qui participeront avec nous dans cette émission. Je vais prendre tout de suite M. Bangta Laurent. Vous êtes président du collectif des ONG de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. C'est bien ça.
Voilà. Alors, quelle est la situation déjà lorsqu'on parle des sida en Côte d'Ivoire? Quelle est la situation qui prévaut de ce côté-là?
Bon, au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut dire qu'il y a eu des progrès qui ont été faits. Parce que dès l'apparition du VIH-Sida en Côte d'Ivoire dans les années 1985, le taux de séroprévalence était de 12%. Et aujourd'hui, avec tout le travail qu'a mené l'État de Côte d'Ivoire, et bien sûr avec les ONG, surtout sur le terrain au niveau communautaire, au niveau de l'approche même de la population, nous sommes à un taux de 3,7. Mais il faut dire que ce taux est encore alarmant parce que nous sommes dans une épidémie généralisée en Côte d'Ivoire. Parce que c'est encore la zone rouge, c'est encore le pays le plus touché de l'Afrique de l'Ouest. Parce que pour pouvoir sortir quand même de la zone rouge, il faut avoisiner vers 2,5 ou 1,5.
Voilà. Donc, merci. Vous restez avec nous. On va prendre le pouls du côté du Cameroun. Elat Jean Bosco est coordonnateur du Comité national de lutte contre le sida au Cameroun. Monsieur Elat, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, au niveau du Cameroun, quelle est la situation?
Bien, la situation, pas très loin de celle de Côte d'Ivoire, mais un peu en plus. Nous sommes aussi dans une situation d'épidémie généralisée. Donc, la dernière enquête démographique de santé qui a été faite en 2011, nous préparons une autre enquête en 2016. J'espère qu'on aura le résultat en 2017. La prévalence dans la population générale, 15-49 ans, c'est 4,3%, avec naturellement une féminisation de l'épidémie, comme dans beaucoup d'autres pays africains, où la prévalence est de 5,6% et chez les hommes de 2,9%. Globalement, c'est pratiquement, en termes d'estimation, c'est 620 000 personnes qui vivent avec le VIH au Cameroun, dont malheureusement, près de 2/3 ne connaissent pas encore le statut sérologique.
Alors,
en termes de personnes sous traitement, c'est autour de 170 000 personnes sous traitement en décembre 2015.
Alors, merci pour ces chiffres, Jean Bosco est là. On va aller au Sénégal. Docteur Batista, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, est-ce qu'au niveau du Sénégal, les choses vont mieux que dans les deux pays qu'on vient de citer, la Côte d'Ivoire et le Cameroun?
Oui, tout à fait. Au Sénégal, nous avons une situation de prévalence faible. De 0,7% dans la population générale. Cependant, on a une épidémie de type concentré parce que cette prévalence elle est élevée chez les populations, disons, clés, ce qu'on appelle les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, avec une prévalence de 17,8%, et chez les professionnels du sexe, une prévalence de 18,5%. Mais également chez les consommateurs de drogues injectables avec une prévalence de 9,4%. Donc, la riposte au sida au Sénégal a été précoce et d'où la stabilité de cette prévalence qui reste stable depuis 5 ans, autour de 0,4%. La prévalence est stable, elle ne baisse pas. Et il y a de nouvelles vulnérabilités qui sont décrites, notamment ces consommateurs de drogues injectables, qui est vraiment une nouvelle population décrite récemment.
Voilà, vous restez également avec nous. On va prendre Gabriel Gandjou. Gabriel, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, votre réaction, que faut-il faire à votre avis pour lutter efficacement contre le VIH-Sida en Afrique?
De mon avis, vraiment, je trouve que pour lutter contre le VIH en Afrique, il faut d'abord une sensibilisation massive de tous les bailleurs de fonds, de tous les gouvernements, de, donc en général de toutes les parties prenantes. Il faut sensibiliser les bailleurs de fonds pour qu'ils essaient de contribuer, de donner des aides nécessaires pour lutter contre ces fléaux de VIH. En plus, étant donné que le traitement ARV pour le moment a un double objectif. Donc, le premier objectif, il faut restaurer l'immunité du patient. Et le deuxième objectif, c'est diminuer les taux de nouvelles infections. Donc, il faut une politique qui permettrait au gouvernement du Sud, donc au gouvernement des pays endémiques, d'apporter les ARV à temps opportun, comme on le fait dans des pays développés. Quelqu'un qui est testé positif, qu'il commence immédiatement les ARV, au lieu d'attendre les stades cliniques de l'OMS, comme on continue à le faire ici chez nous en Afrique. Attendez le premier stade, le deuxième stade pour éviter le traitement ARV. Il aura déjà infecté combien de personnes? Alors que si que le bailleur de fonds et le gouvernement acceptaient ou optaient pour la prise en charge globale et immédiate dès qu'on est pisté, on est dépisté positif, ça pourrait réduire et ça pourrait, après 5 à 10 ans, on pourrait avoir zéro cas d'infection.
Voilà. Alors,
il faut que nos gouvernements utilisent une stratégie de dépistage pour tout le monde.
Voilà, merci. Merci Gabriel. Docteur Batista, Gabriel oui. parlait tout à l'heure des objectifs. L'ONU fixe à 2030 l'année où elle voudrait voir le sida totalement éradiqué. Est-ce que c'est un objectif possible?
Oui, je pense que avec si nous mettons nous tous avec l'aide des partenaires, je pense que c'est un objectif qu'on peut atteindre d'ici 2030. Donc, mettre fin à l'épidémie du sida.
Voilà.
Et pour ce faire, il faut beaucoup d'interventions qui va être ciblée et vraiment revoir notre manière de faire, surtout par rapport à la lutte contre cette pandémie.
Alors, Banta Laurent, à l'ouverture de la 21e conférence sur le sida qui se tient donc en Afrique du Sud, Michel Sidibé, le directeur de l'ONU Sida, a exprimé quelques inquiétudes, notamment pour ce qui est du financement. Il constate que les financements baissent. Est-ce que cela se ressent au niveau des organisations comme la vôtre, puisque vous travaillez avec beaucoup d'ONG? Est-ce que vous ressentez ce manque de financement en Côte d'Ivoire?
Oui, effectivement, cela s'est ressenti il y a quelques dernières années. Nous avons quand même posé le problème lorsque nous rencontrons les bailleurs de fonds. Et ils pensent qu'avec le résultat que nous obtenons d'année en année, ils estiment que bon, le VIH-Sida ne doit pas être une priorité. Et c'est là, pour nous, une grande inquiétude. Parce que là, nous ne sommes pas encore arrivés à un taux de séroprévalence qui doit rassurer. Parce que là, lorsque nous faisons nos projections en Côte d'Ivoire, d'ici 2020, on sera peut-être à 2,84 avant d'arriver à 2030 pour espérer éradiquer dans le domaine des trucs 90. Mais nous estimons que le financement ne doit pas baisser. Je crois qu'à la dernière conférence internationale francophone Afri-VIH à Bruxelles, le problème, nous avons posé encore ce même problème de la baisse du financement. Et c'est une inquiétude au niveau des communautés, puisque la plupart des moyens qui sont alloués aux communautés pour mener les activités sur le terrain viennent des partenaires au développement. Et si ces partenaires au développement baissent le financement, cela va avoir une répercussion préjudiciable aux activités communautaires. Surtout qu'au niveau de la prévention, nous devons encore accroître la prévention, parce qu'il y a encore certains préjugés qui naissent encore dans les esprits des uns et des autres. Il faut encore accentuer la prévention pour que cela puisse gagner le cœur des gens et que les gens soient beaucoup plus conscients que le VIH-SIDA est une réalité qu'il ne faut pas badiner avec.
Alors, la prévention pour ceux qui ne sont pas encore atteints, mais au Cameroun, Jean Bosco Elat, est-ce que l'accès au traitement est facile? Les antirétroviraux, comment ça se passe?
Oui, par rapport aux antirétroviraux, je crois que le traitement, comme dans beaucoup de pays, est gratuit. C'est fait dans plusieurs centres, ce que nous appelons les unités de prise en charge, les centres de traitement agréés. Et maintenant, avec l'option B+, que le Cameroun a adoptée depuis 2012, les antirétroviraux sont dispensés dans les centres de, pardon, dans les formations sanitaires, notamment les centres de santé. Bon, pour la disponibilité, c'est vrai, le Cameroun a connu une turbulence en 2013, ce qui est un lointain souvenir. Maintenant, les antirétroviraux sont disponibles et gratuits. Cependant, c'est les populations qui ne sollicitent pas pour l'instant ces antirétroviraux, surtout ceux qui, comme je vous le disais, pratiquement deux tiers ne connaissent pas leur statut sérologique. Donc, l'effort que nous mettons maintenant, c'est en quelque sorte dépister le maximum de personnes et les mettre sous traitement ceux qui sont séropositifs.
Alors,
si vous me permettez juste.
Allez-y.
Oui, j'ai dit, si vous me permettez, hein, en termes de financement, actuellement, il est connu et reconnu que la société civile et communautaire joue un rôle extrêmement important dans la riposte contre le VIH. Malheureusement, les fonds qui sont mis à disposition, c'est surtout aussi bien par les bailleurs que les États, hein, c'est dans les acquisitions des antirétroviraux, des réactifs, des intrants. Et la société civile, à notre sens, n'est pas financée à la hauteur de ce qu'on devrait attendre. Depuis la fin du MAP, la Banque mondiale, on a vraiment remarqué que les financements en direction de la communauté, de la société civile, a vraiment baissé. Et si nous n'inversons pas cette tendance en matière de financement de la société civile, il sera très difficile de mettre fin, je ne voulais pas parler d'éradiquer, mais de mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici 2030.
Merci Jean Bosco. Et là, on va aller au Burundi. On va prendre Bernadette Abdallah. Bonsoir, Bernadette. Bernadette, bonsoir. Évidemment, Bernadette est en ligne, mais elle ne nous écoute peut-être pas. Je vais relancer le docteur Batista. L'ONU SIDA pense que, souhaite que d'ici 2020, que 90% de tous ceux qui sont atteints du VIH-SIDA aient des antirétroviraux. Est-ce que cela est faisable?
D'ici 2020, on parle d'accélération de la riposte. Donc, essayer de vraiment d'accélérer et trouver des interventions novatrices pour vraiment non seulement dépister le maximum de personnes vivant avec le VIH et également pouvoir mettre 90% de ces personnes dépistées sous traitement antirétroviral. Donc, nous, au Sénégal, nous nous sommes fixés les mêmes objectifs d'accélération de la riposte. Et c'est la raison pour laquelle nous avons préconisé vraiment des interventions ciblées en direction des populations les plus vulnérables et les populations clés. C'est-à-dire, si on investit pour atteindre ces populations, cela veut dire qu'on pourra avoir plus de résultats, plus d'impact.
Alors, Jean Bosco et Lat parlait tout à l'heure du fait que beaucoup de gens ne se font pas dépister. Est-ce que vous savez pourquoi les gens ne se dépistent pas, pour le cas du Sénégal, par exemple?
Oui, pour le cas du Sénégal, du fait que la prévalence soit vraiment faible, et puis il y a aussi le problème de la stigmatisation, la discrimination. C'est ce qui explique que jusqu'à présent, beaucoup de gens sont encore réticents à aller dans les structures sanitaires liées à pour connaître leur statut sérologique.
Alors,
donc, je pense que c'est un constat qui est là. Et évidemment, nous devons trouver d'autres stratégies innovatrices pour vraiment susciter, en fait, pour vraiment pousser la population à aller se faire dépister.
Alors, si vous pouvez partager avec les autres pays ces stratégies-là, de quoi s'agit-il?
Oui, tout à l'heure, je l'ai dit, donc ces stratégies, c'est d'identifier vraiment des zones de vulnérabilité, c'est-à-dire là où on pense avoir plus de résultats, plus d'impact en termes de dépistage, c'est-à-dire les stratégies classiques, les stratégies avancées, la population générale. Certes, on a des résultats, mais nous pensons que en faisant la cartographie de la vulnérabilité, nous pouvons identifier des zones de vulnérabilité, nous pouvons identifier les populations en contexte de vulnérabilité dans ces zones, et nous pensons qu'en faisant des dépistages, des campagnes de dépistage, nous pouvons vraiment dépister plus de cas positifs.
Voilà, on va repartir au Burundi, retrouver Bernadette Abdallah. Bernadette, bonsoir. Bernadette? Ben, on a décidément un problème avec le Burundi. Banta Laurent, est-ce que les ONG avec lesquelles vous travaillez, comment est-ce qu'elles s'y prennent pour ce qui est de la sensibilisation dont on parlait tout à l'heure, amener les gens à se faire dépister? Vous savez comment elles s'y prennent?
Oui, effectivement, puisque bon, nous avons une couverture nationale. Nous gérons plus de 200 ONG. Avec 10 coordinations régionales au niveau du pays et au niveau du district autonome d'Abidjan, il y a une avancée coordination communale. Et ces jeunes mènent des activités de sensibilisation d'abord. Il y a des activités de sensibilisation qu'elles mènent dans leur sphère géographique. Ensuite, il y a l'approche qu'elles essaient de faire aussi au niveau des familles, par exemple. Quelle est l'approche pour donner l'information, la vraie information. Et ensuite, elle mène aussi des activités de soutien, par exemple aux OEV, par exemple du soin et soutien aux OEV, et les visites à domicile au niveau des PVVIH. Tout cela pour permettre à ce que les populations se sentent un peu beaucoup plus conscientes et se rassurent. Il y a aussi le fait de la stigmatisation et la discrimination. Cette partie aussi est un travail qui est fait par les ONG sur le terrain, dans les familles, dans les régions, avec les leaders d'opinion, par exemple, pour prendre les leaders d'opinion tels que les chefs de village, les leaders religieux, et les leaders de groupes constitués, par exemple, etc., pour mener l'information. Et comme ces ONG résident dans les zones où elles sont actives et dans les zones où elles mènent des activités, ces activités se mènent et de manière répétitive jusqu'à ce que ces personnes-là se sentent concernées. Voilà, on avait parlé, j'ai écouté, au niveau du dépistage, c'est la même chose, puisque le dépistage, pour le moment, n'est pas encore obligatoire dans notre pays, mais néanmoins, on amène les gens à aller se faire dépister en leur faisant comprendre que le VIH-SIDA, on le reconnaît qu'après le dépistage, sinon on ne peut pas l'identifier sur le front d'une personne. Même une personne séropositive, vous ne pouvez pas le savoir tant que la personne ne s'est pas fait identifier qu'elle est séropositive. Donc, toutes ces informations, on les donne pour que la population sache que le VIH n'est pas une vue de l'esprit. Parce que souvent, certaines tendances, on croit que c'est une vue de l'esprit. Et puis, voilà. Aussi, il y a des préjugés, des présentateurs culturels aussi qui jouent à la fois.
Voilà.
Donc, les ONG qui sont actives sur le terrain.
Je reviens vers vous.
Le gros problème, c'est le problème de financement qui s'oppose à elles de temps en temps, qui freine de temps en temps leurs activités dans la poursuite de leur
Banta Laurent, je reviendrai vers vous. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le dépistage peut être obligatoire. Au Cameroun, Jean Bosco Elat, il y a eu cette polémique il y a quelques semaines après une note du ministre de la Santé qui, si j'ai bonne souvenance, exigeait que tous ceux qui se rendent dans les hôpitaux soient dépistés. Qu'en est-il en ce moment?
Non, je crois que c'était une polémique inutile et qui n'avait pas de raison d'être. Mais bon, cette polémique nous a permis quand même à ce que l'attention plus particulière soit focalisée sur le VIH, ne serait-ce que pour un certain temps. la décision de M. le ministre a été claire. Elle disait tout patient se rendant dans une formation sanitaire, on doit lui proposer, le personnel médical doit lui proposer systématiquement le dépistage du VIH, suite à ce que, suite maintenant au patient de dire oui ou de dire non. Donc, je crois qu'on a un peu écorché les propos du ministre, certains ont enlevé le terme proposer systématiquement ou mettre fait systématiquement. S'il y a une obligation, l'obligation, c'est du côté du personnel médical qui doit proposer aux malades, maintenant aux malades, de faire le test ou ne pas le faire. Nous croyons que c'est une stratégie qui peut porter. Si au moins 80 à 90% des personnes à qui on propose le test de dépistage dans les formations sanitaires, sachant qu'ils viennent là déjà souffrant de quelque chose, si au moins 90% acceptent, nous croyons que nous pouvons raisonnablement espérer atteindre les 90% des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique.
Voilà.
Je pense, une fois de plus, ce n'est pas obligatoire. La circulaire du ministre a été claire.
Merci.
Proposer systématiquement le dépistage des personnes venant dans la formation sanitaire.
Merci. Je vais lire quelques réactions que nous avons reçues sur Facebook. Celle-ci est de Katema Mutayo Dayo. Il dit il faut aimer plus la vie que la mort. La vie protège, mais la mort détruit. En utilisant régulièrement le préservatif, on peut réussir à lutter contre le VIH-Sida. Une autre réaction, celle de Christian Djerabi, qui dit « Ça ne serait pas facile pour éradiquer le Sida. Ce fléau est un moyen d'enrichissement pour certains pays. La population ne respecte pas les règles de prévention. Certaines personnes porteuses contaminent d'autres volontairement. » On va prendre au téléphone Chapon Aristide. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, votre réaction, que faut-il faire à votre avis pour lutter efficacement contre le VIH-Sida en Afrique?
Déjà, nous avons, par rapport aux propos du ministre, il n'y a pas de souci. Nous pensons que le plus important, c'est de sensibiliser davantage les gens, les personnes, les populations africaines, camerounaises en particulier, sur le dépistage volontaire. Parce que si la sensibilisation n'est pas accentuée dans ce sens-là, ce ne sera pas un problème aussi facilement résolvable, comme les gens peuvent le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que si nous accentuons l'action sur la sensibilisation, et qu'on soutienne, parce que le plus important n'est pas seulement de dire on sensibilise autour de ces valeurs, c'est telle quantité, c'est tel nombre, c'est tel chiffre, mais il faudrait qu'on soutienne les associations qui œuvrent au jour le jour pour lutter contre les fléaux. Qu'est-ce que les pouvoirs publics font pour soutenir ces associations-là? Je prends un exemple. Vous m'avez contacté parce que je suis responsable d'une association. Je n'ai jamais entré en contact avec les pouvoirs publics pour pouvoir dire, OK, voilà, nous avons un prix pour faire tel, ou ça, ou ceci. En quoi est-ce que nous pouvons vous aider pour que la lutte que nous menons ensemble puisse avancer? Que l'État soutienne les associations qui luttent contre le VIH-Sida et que la sensibilisation soit beaucoup plus faite pour pousser, pour inciter les gens à se faire dépister. Ça, c'est de deux. La troisième des choses, c'est qu'on dit, OK.
En 10 secondes.
Pour ceux qui sont. D'accord. On dit, pour ceux qui sont très positifs, voilà, tout est gratuit, les arrêts sont gratuits, c'est vrai. Les arrêts sont gratuits, mais les examens qui sont tout autour pour avoir les arrêts, c'est tout un problème. C'est tout un tas d'argent qu'il faut dépenser. Et pour une population qui vit avec moins de 600 francs par jour, ce n'est pas évident de pouvoir payer un examen de 15 ou 16 ou 17 000 francs.
Voilà.
Donc, l'État revoit encore sa politique.
Chapon, vous restez avec nous. On va faire un dernier tour de table. Il se tient donc en Afrique du Sud depuis lundi la 21e conférence internationale sur le sida. Est-ce que vous pouvez chacun, en quelques secondes, nous dire ce que vous attendez de cette conférence-là et puis on finira par un dernier mot, un conseil. Je vais commencer par le docteur Batista.
Merci. Pour cette conférence, vraiment, nous attendons à ce que les partenaires vraiment une pensée pour ces personnes vivant avec le VIH en Afrique qui souffrent et que vraiment qui nous aident beaucoup vraiment par rapport au financement. Parce que c'est vraiment ce financement qui pose problème. Donc, il faut des financements pour avoir les médicaments antirétroviraux.
Voilà.
Mais également pour.
10 secondes.
pour nos programmes, pour que le programme puisse vraiment fonctionner correctement.
Voilà. Banta Laurent, en quelques secondes, qu'est-ce que vous attendez de la conférence d'Afrique du Sud et un conseil?
Oui, un conseil, j'attends beaucoup de cette conférence-là et j'espère qu'au sorti de cette conférence, la tendance va être renversée et que les partenaires de développement, les bailleurs du fonds, vont quand même prendre une résolution pour un financement beaucoup plus accru afin que la sensibilisation au niveau des communautés aille de l'avant, parce que sans sensibilisation, il serait difficile d'atteindre les résultats escomptés. Et nous l'avons expérimenté en Côte d'Ivoire, si Ebola n'a pas pu passer, c'est grâce à la sensibilisation accrue. Donc il ne faudrait pas que nous fassions la fine bouche, il faut augmenter les financements des associations pour que celles-ci poursuivent le travail de sensibilisation.
Merci Banta Laurent. Jean Bosco est là, en quelques mots.
Disons que en matière, qu'est-ce que j'attends, les stratégies sont connues depuis, qui marchent sont connues depuis. Hein. Moi personnellement, je crois qu'il faut accroître l'appui aux communautés pour l'utilisation des services qui sont disponibles et visiblement aussi renforcer de façon globale le système de santé. Et à ce niveau-là, peut-être je rejoins les autres prédécesseurs qui l'ont dit, il faut augmenter le financement en direction des services de santé, augmenter le financement en direction des communautés et vraiment un transfert de technologies par rapport à la fabrication.
Chapon Aristide, un mot de la fin.
Oui, comme mes prédécesseurs l'ont dit, nos pays africains n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir éradiquer cette maladie. Donc, la question pour. Je m'attends à ce que, surtout de là, que le financement soit vraiment augmenté et que les pays africains prennent les résolutions de travail beaucoup plus avec les associations locales qui les aident dans des tâches qui n'est pas facile pour eux. Et puis, je pense qu'après ça, le reste ira mieux.
Voilà. Merci à tous ceux qui ont intervenu dans cette émission. C'est la fin de Antenne Libre. Michel Joseph était à la production, assisté de Fred. Rockner Robert était à la régie d'antenne. John Lyndon présentait cette émission. Restez à l'écoute des programmes de VO Afrique sur voafrique.com et sur Facebook. Bonsoir.